plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large sur Andrei Zviagintsev, l'iconophile iconoclaste, avec Eugénie Zvankin et Joël Chaperon, et aussi Mathieu Macheret.
Ça, c'est pour moi l'emblème de ce qu'est mon contact avec le réel. Pour moi, le réel, il naît à partir du moment où cette poire, qui est en voie de pourrissement, qui va sécher, qui va être magnifique, cette poire est pour moi l'emblème de ce que doit être le cinéma.
C'est au moment où nous commençons à comprendre quelque chose de la vie qu'il nous faut la quitter. Mais peut-être est-ce cela, comprendre. On ne comprend le verre qu'à l'instant fugace où il se brise, écrivait aussi André S. Labarthe, le grand homme de cinéma, critique, cinéaste et producteur, nous a quitté lundi. Nous commencerons ce plan large avec un bref hommage avec l'historien du cinéma, Antoine Debecq, un cinéaste de notre temps. Voilà bien comment on pourrait qualifier André Zviagintsev, César du meilleur film étranger la semaine dernière, avec Faute d'amour. Le Russe a créé en 15 ans une filmographie d'une profonde cohérence, du retour en 2003 qui lui avait valu un Lion d'or dès son premier film, à Léviathan, en passant par Le Bannissement et Elena, et donc ce Faute d'amour qui lui a valu aussi le prix du jury au dernier festival de Cannes. À 53 ans, le plus connu des cinéastes russes de sa génération est un habitué des récompenses festivalières célébrées dans le monde entier et très critiqué dans son pays où on le traite volontairement d'anti-russe. Il faut dire que l'homme se plaît à déboulonner les figures les plus sacrées d'une Russie éternelle en pleine déshérence, même si ses films ont avant tout la dimension de fable universelle. Héritier d'un autre Andrei Tarkovsky, dans un monde déspiritualisé, sans dieu ni Marx, Zviagintsev, cinéaste de l'ellipse, du non-dit et du mystère, film avec une mise en scène majestueuse, au risque parfois du solennel, et dans des cadrages somptueux, les tourments intimes de personnages pris dans des situations qui les obligent à des choix moraux. À l'occasion de la sortie en DVD et Blu-ray de l'intégrale de ses films, intégrale à ce jour, on l'espère, plan large sur un moraliste pas moralisateur, avec deux spécialistes du cinéma russe, l'historienne Eugénie Zvankin et Joël Chaperon, notamment adaptateur en français des 5 longs métrages de Zviagintsev. Et puis, comme le cinéma, ce n'est pas que de sublimes images, en fin d'émission, Mathieu Macheret évoquera sa dimension sonore. Ouvrez vos oreilles.
Je crois que notre admiration pour les... Je cite des noms, les Chaplin, les Griffith, les Stroheim, les Fred Niblou, les
Think Brum's burning. He sees the check.
E allora succede questo, che
Parfait générique, en effet, commencer avec Jean Renoir pour finir avec Henri Langlois, parfait générique, celui de cinéma de notre temps, continuation de cinéaste de notre temps, la série mythique créée pour la télévision par Jeannine Bazin et André S. Labarthe en 1964. Souvenez-vous, Jean-Luc Godard discutant avec Fritz Lang, John Ford dans son lit, John Cassavetes à la table de montage de Faces, Éric Rohmer filmant Dreyer et déballant des années plus tard devant Jean Douché sa mallette de tournage, Rivette filmant Renoir, puis 20 ans plus tard filmé par Claire Denis. André S. Labarthe en avait filmé beaucoup de ses portraits de cinéastes par d'autres cinéastes, mais pas seulement, plus de 600 films sur des danseurs, des peintres, des écrivains. André S. Labarthe, passeur pluridisciplinaire et figure familière de la cinéphilie avec son chapeau mou et sa gitane maïs éternellement vissée à son sourire ironique, est parti lundi à 86 ans. Bonjour Antoine Debecq.
Bonjour.
C'est l'historien de la cinéphilie en général et des cahiers du cinéma en particulier que nous appelons aujourd'hui au téléphone. Les cahiers du cinéma cinéma, Andrés Labarthe y était entré en 1956, hein, si je me souviens bien, à l'invitation d'André Bazin. Est-ce qu'on peut dire, Antoine de Bec, qu'il sera resté toute sa vie un critique, y compris et en particulier dans son activité de cinéaste pour la télévision?
Si la critique, cela veut dire exercer ce regard aigu et puis faire l'autre exercice qui est celui de la pensée du cinéma, on peut dire que Labarthe a exercé ce regard et a pensé le cinéma tous les jours. Et il est, je pense que c'est une présence très importante qui a traversé comme ça plus de 60 ans du cinéma français, du cinéma mondial, en poursuivant à sa manière, et c'est comme ça qu'était née d'ailleurs la série Cinéaste de notre temps, ce qui s'était écrit et ce qu'il avait écrit et cette aventure à laquelle il avait participé durant les années 50, début 60 au Cahier du cinéma. C'est vrai que Labarthe, c'est cette présence-là, peut-être la plus constante comme ça au cœur du cinéma.
Alors, c'est une pensée du cinéma qui nous réjouit d'ailleurs à plan large, puisque sa grande idée, et ça a été le principe de cinéaste de notre temps ou cinéma de notre temps, c'est de notre temps. C'est-à-dire que pour Labarthe, un film des frères Lumière est contemporain d'un film de David Lynch.
C'est tout à fait ça, c'est ce qu'il a écrit très vite dans les cahiers du cinéma et qui a été très important évidemment pour la nouvelle vague. C'est-à-dire cette idée que la nouvelle vague était au croisement, à la rencontre de une sorte de résurgence au présent des Lumières, de Griffith et fécondait son présent. Ce sont des idées que des gens comme Godard évidemment s'en sont emparés, en ont fait leur miel. Mais en même temps, Labarthe, ce qui est important, c'est que il était à la fois comme ça une sorte d'emblème et en même temps il était complètement différent. C'est ça qui est beau chez André. C'était cette sorte de curiosité qui l'amenait vers des lieux, des cinéastes, des manières de faire du cinéma ou pas forcément d'ailleurs du cinéma qui n'appartenait qu'à lui. En cela, il est arrivé au cahier du cinéma comme ça. Ça a été son arrivée au cahier, ça introduit dans la revue des traditions et des manières de voir le cinéma qui n'étaient pas du tout celles, disons, qui dominaient la revue au milieu des années 50. C'est par exemple lui qui, le premier, va introduire le surréalisme, par exemple, ou alors le premier va voir La Nuit du Chasseur, hein, La Nuit du Chasseur de Charles Laughton. C'est vraiment une création d'André Labarthe. C'était un film qui était quasiment invisible pour les gens des cahiers à l'époque, qui était dans une cinéphilie beaucoup plus classique, et qui, voilà, un cinéaste qui venait de nulle part, ou en tout cas pas de l'auteurisme, et puis une manière de filmer qui était comme ça aux antipodes du côté très classique de la cinéphilie américaine de l'époque. C'était quelque chose de très important. Et voilà, André Labarthe a constamment tenu ce fil-là, en allant voir du côté de la peinture, en allant voir du côté de la danse, en allant voir du côté de la littérature, évidemment. Donc cette présence elle est à la fois au centre de ce qu'a pu être cette pensée cahier, et en même temps elle n'appartient qu'à lui. C'était sa façon aussi de refaire l'histoire du cinéma à partir d'une idée. Tout à l'heure, vous avez fait entendre cette idée de le cinéma, c'est une poire. Le cinéma pour André Labarthe, c'était aussi une sorte de traque des hasards. C'était le hasard qui était l'énergie essentielle de la mise en scène du cinéma, où c'était cette théorie qui est devenue fameuse des traqueurs et des piégeurs, ceux qui attendent que les cinéastes qui attendent que le réel vienne à eux, et puis ceux qui au contraire provoquent, ceux qui mettent en scène le réel, quoi.
Ce type, il t'intéresse vraiment?
Tu sais, je ne sais pas. Je me demande à quoi tu penses.
Il a plus d'argent que moi.
Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire?
Ça ne va pas, non?
Non, rien. Je voulais dire cette phrase avec une idée précise. Je ne savais pas quelle était la meilleure façon d'exprimer cette idée. Ou plutôt, je le savais. Mais maintenant, je ne sais plus. Alors que justement, je devrais le savoir. Ça ne t'arrive jamais?
Tu ne parles que de toi. Tu ne peux pas parler d'autre chose.
Est-ce que tu es méchant?
Je ne suis pas méchant, moi, Nana. Je suis triste.
Je ne suis pas triste, moi, Paul. Je suis méchant.
Ne dis pas n'importe quoi. On n'est pas au théâtre.
Tu ne veux jamais ce que je demande. Tu veux toujours que je le fasse et toi jamais.
Oui.
D'ailleurs, j'en ai marre. Je vais mourir.
Sans blague.
Oui, sans blague.
N'importe quoi.
Et oui, Andrés Labarthe était aussi comédien à l'occasion. C'est lui qui joue Paul face à Anna Karina dans cet extrait de Vivre sa vie de Jean-Luc Godard en 1962. Antoine Demeyck, comment se fait-il que Andrés Labarthe ne soit pas passé au long métrage de cinéma, contrairement aux Godard, Truffaut, Rivette, Romer, toute sa bande des cahiers de l'époque, et qu'il se soit épanoui comme cinéaste, certes, mais à la télévision?
Je pense que c'était le prolongement des cahiers. C'est-à-dire que pour Godard, Truffaut, Rivette, le prolongement des cahiers, c'était de passer au long métrage. Pour Labarthe, ça a été de faire cinéaste de notre temps. C'est comme ça qu'il laisse une œuvre qui... Alors, bien sûr, on peut pas la calibrer en termes de long métrage, mais je pense que c'est 600 films qu'il laisse et c'est cette centaine de cinéastes de notre temps ou de cinéma de notre temps, d'épisodes comme ça, ça vaut combien de longs métrages? D'ailleurs, il y a plusieurs. Labarthe était quelqu'un qui adorait ça, jongler avec les formats de films. Il fait des films sur les 600 films. Il y a des films de 5 secondes et des films de 8 heures. C'est une des caractéristiques de Labarthe. On peut pas l'enfermer dans les catégories usuelles du cinéma. Mais en tout cas, cette idée que faire cinéaste de notre temps, c'est la prolongation des cahiers, exactement comme pour Godard, la prolongation des cahiers, c'est faire à bout de souffle. Ça, je pense que c'est quelque chose que Labarthe a défendu. Il l'a pensé avec Jeannine Bazin, donc qui était la veuve d'André Bazin. Et ils se sont dit, au début des années 60, il faut... c'était un petit peu la marque de fabrique des cahiers, hein, de rencontrer les grands cinéastes. C'est les cahiers du cinéma qui ont inventé le grand entretien au magnétophone au milieu des années 50. Quand Rivette et Truffaut vont voir Jacques Becker, par exemple, et puis ensuite plusieurs dizaines d'entretiens qui suivent, Labarthe, d'une certaine façon, fait la même chose. Aller voir ces grands cinéastes quand ils sont là. Alors, parce qu'il y a très peu de films sur des cinéastes disparus. C'est vraiment là toujours cette idée du présent, d'aller les voir, les faire parler, de les mettre en situation de chez eux ou en situation de fabriquer le film, la situation en tout cas qui sera révélatrice de leur œuvre, de leur pensée du cinéma. C'est vraiment la grande idée de Labarthe. C'est une idée que je défendrai. Je pense c'est quand même ce qui s'est fait de plus beau à la télévision et pas seulement en France. Hein. Je pense que c'est une des émissions. Une des séries comme ça les plus magnifiques de la télévision mondiale, cinéaste de notre temps.
Merci beaucoup Antoine Demeyck d'avoir rendu hommage à Andrés Labarthe en plan large sur France Culture, le coffret DVD cinéma de notre temps. 18 films sur 18 cinéastes seulement sur les 100 qui ont été tournés, avait été édité par MK2 il y a 10 ans. Je crois qu'il se trouve encore en cherchant bien et c'est absolument indispensable. Et puis on renvoie aussi au livre d'entretien de Labarthe avec Thierry Lounas, la saga cinéaste de notre temps, une histoire du cinéma en 100 films aux éditions Capricci, avec en plus un DVD de rush inédit sur Franck Capra, Ruben Mamoulian et Elia Kazan. Mathieu Macheret, Andrés Labarthe, fut un temps votre voisin à Paris.
Ben oui, puisque j'ai habité rue Ramée, dans sa rue, hein, ceux qui l'ont connu le savent. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Andrés Labarthe, c'était évidemment un grand critique, un des défenseurs de la modernité cinématographique au cahier, hein, qui a beaucoup défendu
Antonioni, notamment, oui.
Qui a été vraiment un cas de scission à l'intérieur de la rédaction. Et puis, bah, comme Antoine Debecq l'a très bien rappelé, un grand homme de télévision qui a amené à la télé. Enfin, il était parfait pour la télé parce qu'il avait une pensée du présent du cinéma qui rejoint l'idée directe, en fait. Hein. Et ça, c'est ça qu'il a trouvé à la télé, qu'il a pu expérimenter. En effet, la malléabilité des formats. Et puis, on le sait peu, on le sait moins. C'était aussi un grand collectionneur d'objets
écrasés.
Voilà, objets écrasés, canettes, fruits pourris aussi.
Animaux écrasés sur la route.
Voilà. C'est-à-dire des objets qui avaient reçu dans leur forme l'empreinte du temps. Je crois que c'est ça aussi qui le fascinait beaucoup.
Eh bien, merci et salut à Andreas Labarthe qu'on aimait beaucoup. Il est temps maintenant de se plonger dans l'œuvre d'un cinéaste tout à fait de notre temps.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Та супап.
Выпьем. Понравилось?
Не очень.
Мне понравилось. Мам, можно еще?
Хватит. Закусывайте.
Твоя машина во дворе?
Моя.
Прокатишь?
Конечно. Мы с вами в поход поедем.
Правда?
Правда. Завтра утром поедем.
Правда, мам?
Правда, сынок, правда.
А рыбу будем ловить?
Конечно, если нравится.
Правда, правда, on est bien dans un film russe. C'est en 2003, il y a 15 ans, qu'Andrei Zvyagintsev apparaît sur la planète cinéma. C'est à Venise. Il remporte à la fois le Lion du futur qui récompense un premier film et le Lion d'or directement pour ce retour où deux frères voient leur vie bouleversée par l'irruption de leur père après plusieurs années d'absence. On a entendu dans cette scène de repas le père leur annoncer qu'il les emmène en voyage. Vraiment, vraiment, pravda, pravda. La filiation rompue, c'est un des grands thème de Zvyagintsev, Eugénie Zvonkin. Alors, est-ce qu'il faut y voir une dimension autobiographique? On a appris assez tardivement que le père de Zvyagintsev était parti quand il avait 5 ans, qu'il ne l'a jamais revu. En tout cas, c'est un thème fort de son cinéma, Eugénie Zvonkin.
Alors, oui, c'est vrai, c'est une des thématiques, selon moi, qui traverse vraiment l'œuvre de Zvyagintsev. Je ne me lancerai peut-être pas dans une interprétation biographique de cette thématique, même si on sait bien que les relations complètes avec les pères ont aussi beaucoup tenu des cinéastes, et puisqu'on a parlé de Tarkovsky tout à l'heure, on aurait pu aussi parler de sa relation très complexe avec son père qui traverse aussi son œuvre. En revanche, ce que je pense très frappant, c'est que effectivement cette idée de la filiation rompue qu'on retrouve vraiment dans chacun de ses films et qu'on retrouve évidemment de manière très très forte dans Faute d'amour, qui est le dernier en date, puisque c'est de nouveau
c'est presque le contre-champ du retour.
Avant
on avait le point de vue des enfants, maintenant on a le point de vue des parents.
Exactement, c'est presque ça, tout à fait. Et ce que je trouve frappant, c'est que c'est pour moi une thématique aussi très actuelle pour le cinéma russe contemporain. Parce que je pense que le cinéma russe contemporain, celui des années 2000, celui du cinéma vraiment post-soviétique, parce qu'on sait que les années 90, c'était des années où, en fait, il y a eu des films qui se sont faits, mais il y en a eu beaucoup moins. C'était un peu la crise de l'industrie du cinéma russe. C'est un cinéma qui est traversé par la question des générations et de l'héritage ou de la difficulté à avoir un héritage de son passé. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi quelque chose là où Zvyagintsev, au-delà peut-être d'un rapport très personnel et très intime à la question, touche à quelque chose qui concerne un peu l'état de la génération actuelle des Russes.
Bah précisément, Joël Chaperon, vous qui avez connu les deux époques, l'époque soviétique, la perestroïka, et puis l'époque actuelle, est-ce qu'on n'a pas catalogué un peu vite Zvyagintsev comme héritier de Tarkovsky quand on a découvert le retour? On parlait d'Antonioni avec Labarthe, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup compté pour lui, Bergman et d'autres. C'est une façon un peu rapide de le réduire, hein.
Rapide, oui, d'autant plus que pour moi, même s'il n'y a que pour l'instant que 5 longs métrages d'Andrei Zvyagintsev, il y a vraiment deux périodes. Il y a ce que j'appelle moi les films hors sol, qui sont Le Retour et Le Bannissement, où on est vraiment ailleurs. On est en dehors de la Russie, on est dans le monde, c'est une histoire universelle. Évidemment, on retrouve des choses qui sont totalement russes, ça c'est clair, et notamment dans Le Bannissement. Mais par exemple, dans Le Bannissement, Andrei voulait absolument que les personnes qui voient le film soient perdues. perdu parce qu'il est venu tourner du côté de Maubeuge, parce qu'il a tourné la maison en Moldavie, parce qu'il est allé tourner à Bruxelles, en tout cas dans la province belge, et il s'est même demandé à un moment s'il n'allait pas faire le film dans une langue inventée. Un peu de mi-chemin entre l'espéranto et la langue de Range Mécanique. À tel point que vraiment pour lui c'était important de montrer cette universalité. Et puis à un moment, lui qui se dit apolitique, dit aussi que les Russes ont été rattrapés par la politique dans les années 2000, justement, à la toute fin des années 2000, sans doute au moment du passage de témoin entre Yeltsin et Poutine, et que la politique est entrée dans sa vie. Et depuis Elena, Léviathan et Faute d'amour, on est véritablement dans une histoire toujours universelle, mais totalement ancrée en Russie. Et on n'est plus dans le hors-sol que moi j'appelle pour les deux premiers films, mais on est véritablement confronté à des histoires universelles dans un cadre russe. Dans Léviathan, c'est très particulièrement souligné, mais aussi dans Faute d'amour.
Подай-ка мне яблоко, зайка.
Меня зовут Ева.
Я знаю. Я же сама дала тебе это имя.
Ты сказала зайка.
Это потому, что ты зайка. Солнечный зайчик. Лучик.
Я так и не хочу. Я хочу быть Евой.
Ладно, Ева, подай мне яблоко. Ты ведь хочешь салат из яблок?
Нет, не хочу.
А чего же ты хочешь?
Ничего.
Il n'y a pas que des pères et des fils dans le cinéma de Zviagintsev, il y a aussi des mères et des filles. C'est un extrait du Bannissement, une petite fille qui ne veut pas que sa mère l'appelle Mon Lapin, parce qu'en fait elle s'appelle Ève. Et puis juste après cette séquence, la mère, pour une raison encore inconnue pour le spectateur, va partir pleurer dans son coin. C'est l'histoire d'une famille qui quitte sa ville, une ville industrielle, pour s'installer à la campagne. Et puis un jour, la femme annonce à son mari qu'elle est enceinte, mais... pas de lui. Un film qui aurait pu s'appeler Faute d'amour, déjà, Joël Chaperon. Vous avez été remercié en direct vendredi de la semaine dernière par le distributeur de Faute d'amour, Éric Lagesse, vous remerciant d'avoir trouvé ce titre français. Mais en fait, tout le cinéma de Zviagintsev pourrait s'appeler Faute d'amour.
Absolument, absolument, effectivement. Il aurait très bien pu trouver ce titre-là pour d'autres films. Ce qui est intéressant dans la filmographie de Zviagintsev, c'est qu'en russe, tous ses films sont un seul mot. Y compris Faute d'amour, que moi j'ai été obligé de trouver quasiment trois mots.
C'est comment en russe, Faute d'amour?
Et c'est écrit en un seul mot, et Léviathan est un seul mot, et le bannissement est un seul mot, et le retour, etc., Elena. Et il essaye toujours de trouver un mot, et ce que je n'ai pas réussi à rendre en français, mais on a passé une année entière à tourner autour du titre, jusqu'à ce que je trouve ça effectivement quasiment la veille de la clôture du catalogue du Festival de Cannes, et que depuis un an, tout le monde ne parle que de Faute d'amour. C'est très compliqué avec le Festival de Cannes, parce qu'à partir du moment où vous ne trouvez pas le bon titre tout de suite, c'est celui-ci qui va ensuite rester, et ce sera très difficile de s'en défaire après.
Voilà, il faut toujours prendre des décisions au dernier moment, sont souvent les meilleures. D'ailleurs, c'est toute l'histoire des personnages de Zviagintsev. Ils se retrouvent dans des situations, ils doivent faire des choix, ils doivent prendre une décision, mais alors, ce qui est terrible chez Zviagintsev, c'est que généralement, ils ne prennent jamais la bonne. Si tant est qu'il y ait une bonne, comme dans le bannissement, où le frère du père va lui dire « Si tu fais ça, c'est bien, mais si tu fais ça, c'est bien aussi. » Eugénie Zvonkine.
Oui, je pense que c'est une des forces de ce cinéma, c'est que c'est un cinéma, j'ai beaucoup aimé votre tournure de tout à l'heure, que j'ai même noté, le moraliste pas moralisateur. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, Zviagintsev aime bien nous confronter à des choix moraux extrêmement difficiles, et en même temps, justement, montrer des personnages qui ne font pas forcément le bon choix, mais tout en nous confrontant au fait que ce n'est pas facile de faire le bon choix. Donc on n'est pas du tout dans une espèce de posture de moralisatrice qui nous dirait voilà comment il aurait dû se comporter, mais plutôt on observe ce que vit un être humain qui se confronte confronte à sa propre monstruosité, à son propre manque d'amour, manque de qualité quelque part. Et de ce point de vue-là, par exemple, je trouve que c'est une des forces, on pourrait parler de Léviathan, je pense qu'on y viendra tout à l'heure, qui a été un film donc, très politique, qui a été décrié en Russie pour ces raisons-là.
On va en parler, effectivement.
Voilà. Mais en même temps, le film, il y a très clairement, évidemment, une manière très, très ostensible et très courageuse, une vraie critique de la Russie contemporaine. Mais face à cet appareil de l'État complètement écrasant, qui pourrait être vraiment, qui est diabolisé, mais face à lui, on pourrait avoir des victimes toutes blanches, blanches colombes. C'est pas du tout le choix que fait Zvegintsev. Au contraire, les gens qui sont broyés par l'État sont totalement faillibles, et on les voit faire justement des mauvais choix eux aussi. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas cette idée justement du personnage pur, parfait. On voit constamment les personnages de Zvegintsev se confronter à des choix et la plupart du temps, malheureusement, faire le pas de côté et ensuite devoir vivre avec les conséquences. Et je pense que c'est le dernier plan de Faute d'amour, avec ce regard caméra donné par le personnage principal féminin, c'est ça.
Какое вы имеете право думать, что вы особенный? Почему? Почему? Только потому, что у вас больше денег и больше вещей? Все же может измениться.
Не понял, что может измениться?
И последние станут первыми.
А, вы этого не слыхали. Сказки для бедных и глупых. Библейские истории. Равенство и братство, Лена, бывает только там у вас, в Царстве Небесном. Ладно. Но тебе, я так понимаю, еще куча дел.
Да, у меня много дел. Чего-нибудь хочешь?
Я хочу только одного, чтобы ты меня правильно поняла.
Я поняла тебя правильно.
Лен, мы должны через это пройти достойно.
Достойно? Пройдем.
Я рад, что ты меня понимаешь. Да. Пожалуйста, принеси мне ручку и бумагу. За судом придет адвокат. Я хочу набросать черновик завещания.
Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres, vous qui avez de l'argent, demande Elena à son mari. Mais tout peut changer, les derniers seront les premiers. Ce ne sont que des contes, lui répond Vladimir, son mari. L'égalité, la fraternité n'existent que dans le royaume des cieux. Et puis à ce moment-là, il lui réclame du papier et un stylo pour écrire son testament. Et c'est voilà qui va faire basculer le film. Lutte des classes au sein du couple, déréliction morale. Alors on parlait des choix à faire et des conséquences. Elena, c'est toute cette histoire. Mais c'est d'autant plus difficile pour le spectateur de juger les personnages, que le spectateur en sait peu, il en sait à peine plus que les personnages. Le cinéma de Zvegintsev, c'est un art de l'ellipse, un art du hors-champ, un art du non-dit en permanence, Joël Chaperon.
Oui, oui, tout à fait. Mais ce qui, je voulais rebondir sur l'idée du choix, c'est quelque chose auquel le cinéma russe est confronté aujourd'hui, et c'est ce qui sans doute nous intéresse, nous, quand on prend les trois films russes, ou presque russes, qui étaient à Cannes l'année dernière, Faute d'amour, Une femme douce et Tesnota, Une vie à l'étroit.
Qui est sorti mercredi dernier,
on se retrouve dans trois films qui confrontent un personnage, voire deux, à des choix cruciaux, à des choix moraux. Le tout dernier, effectivement, Tesnota, Une vie à l'étroit, qui est sur les écrans actuellement, c'est véritablement ça. On est devant un choix crucial qu'un personnage doit faire et dont va dépendre ensuite toute sa vie. Donc ça va encore aussi, comme disait Eugénie tout à l'heure, sur l'image du père, on dépasse le cinéma de Zvegintsev. C'est des choses qui sont extrêmement prégnantes aujourd'hui dans le cinéma russe. Les choix cruciaux, les choix à faire dans la vie qu'on voit sans doute moins aujourd'hui dans le cinéma français, par exemple.
Le non-dit, le hors-champ,
le non-dit,
l'ellipse, le mystère chez Zvegintsev.
Andrei Zvegintsev, effectivement, estime qu'il fait partie de ces cinéastes qui estiment que le spectateur est acteur et qu'il doit lui aussi avoir sa propre opinion, se faire son film. Bien évidemment, il donne des directions, mais il y a tellement de non-dits dans ces films que c'est au spectateur soit de les découvrir lui-même, mais pour la plupart du temps, c'est les inventer lui-même. C'est pas juste les découvrir. Le spectateur est acteur du film, le spectateur est partie prenante, j'allais dire presque du scénario. Il se trouve que, hormis Le Retour, les quatre films suivants ont été écrits par le même scénariste. La plupart du temps, le scénario est co-signé avec Oleg Neguin, mais globalement, la manière dont travaille Zvegintsev Zaïnsev, c'est qu'il va voir Oleg Neguin, qui est un personnage très mystérieux, parce que c'est un surnom, il ne s'appelle pas comme ça, très mystérieux. Il lui raconte une histoire et ensuite il le laisse tranquille. Et Oleg Neguin va écrire l'histoire et ensuite Andrei va venir le voir plusieurs fois pour corriger, rectifier, rediriger le scénariste, même si il est le premier à dire en fait qu'il ne coécrit pas le scénario, il laisse Oleg Neguin écrire et ensuite lui va avancer en apportant des correctifs.
Mais il faut dire que les scénarios de Oleg Neguin et de Zvegintsev ne sont pas très épais parce qu'il y a peu de dialogue en général. On repense à ce début d'Elena, la première parole doit arriver au bout de 8 ou 10 minutes. Il y a ce très long plan sur un balcon et avec le soleil qui se lève très doucement avec des corbeaux qui se posent sur les branches d'un arbre en plein hiver. Donc il n'y a pas de feuilles. Ces moments qui sont pas tant de la contemplation qu'une autre manière de montrer le passage du temps. C'est là encore une signature de Zvegintsev, Genis Vankin.
Oui, et je pense que effectivement, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Joël sur cette manière de faire participer le spectateur. Et je dirais que, alors Zvegintsev lui-même dit dans les entretiens qu'il aime la forme du rondo musical et que donc il l'utilise aussi au cinéma. Que donc il y a cette manière de revenir parfois sur les mêmes plans. Donc ce plan que vous venez de décrire très bien, qui ouvre Elena, c'est pratiquement le même plan qui clôt le film, sauf que tout a changé entre les deux. Et ça, c'est au spectateur de du coup jauger ce que ça change, tout ce qui s'est passé dans le film. Et en fait, de cette façon-là, en travaillant de cette façon-là, Zvegintsev rejoint presque, je dirais, ce que théorisait à sa manière un autre grand cinéaste soviétique, c'est Artavas Perishian, hein, qui parlait du montage à distance. C'est-à-dire que finalement, le fait de mettre le même plan, ou quasiment le même plan, puisque là, en fait, c'est quand même des plans légèrement différents, à distance dans le film, fait qu'on peut retrouver le même thème, mais tout d'un coup, on se rend compte que tout a changé entre-temps pour nous. Et donc là, c'est vraiment le même travail qu'accomplit Zvegintsev, et il nous laisse, du coup, songeur, et il nous laisse réfléchir à ce que ça veut dire.
Ну и чё? Где твой бог милосердный?
Мой-то со мной. А вот где твой, не знаю. Кому ты молишься? В церкви я тебя не видел. Не постишься, не причащаешься, на исповедь не ходишь.
Если бы я свечки ставил и поклоны бил, у меня бы всё по-другому было. Может, сейчас начать, пока не поздно. Может, жена моя воскреснет. Дом мне вернут. Или поздно уже.
Не знаю. Пути Господни неисповедимы.
Не знаешь. А чё тогда на исповедь зовёшь? Чё ты вообще-то знаешь? Будешь?
Нет. Можешь ли ты удой вытащить Левиафана и веревкой схватить за язык его? Будет ли он тебя умолять? Будет ли разговаривать с тобой кротко? На земле нет подобного ему. Он царь над всеми сынами гордости.
Отец Василий, я же с тобой по-человечески.
Un extrait de Léviathan d'Andrei Zvegintsev, son film de 2014, discussion entre le personnage principal, Kolia, et un prêtre auprès de qui il ne va pas vraiment trouver du réconfort. Il faut dire que l'Église marche main dans la main et verre de vodka dans verre de vodka avec l'État dans ce petit village au bord de la mer de Barents, où cet homme, donc Kolia, va se battre pour défendre sa maison, qui doit être saisie par le maire du village, et va se battre jusqu'à l'obstination, jusqu'à la folie et jusqu'à tout perdre. Il y a un film récent iranien qui s'appelle Un homme intègre de Mohammad Rasoulov qui raconte à peu près la même histoire. Alors là, on est dans le film le plus directement politique de Zvegintsev et c'est un film qui a été récompensé, là encore, au Festival de Cannes, prix du scénario en 2014 à Cannes, et qui est très mal passé auprès non seulement des autorités, mais aussi de toute la frange nationaliste en Russie, qui a violemment attaqué le film, Joël Chaperon.
Oui, effectivement, c'est à aujourd'hui sans doute le seul film qui montre la collusion entre le pouvoir et la religion. Et s'il y a encore un tabou dans la manière d'appréhender, on va dire, l'art contemporain, c'est de montrer la religion sous un mauvais jour. Et ça a été extrêmement mal reçu d'un point de vue effectivement nationaliste, extrêmement bien reçu par toute une partie de l'intelligentsia, ça va de soi. Il se trouve que par le plus grand des hasards, le film a été soutenu par le ministère de la Culture, financé financièrement à ses tout débuts. Selon Andrei Zvyagintsev, il pense que sa notoriété a précédé le scénario et que donc ils lui ont donné sans lire l'argent dont il avait besoin. Toujours est-il que la veille du départ pour le Festival de Cannes, Andrei a montré le film au ministre de la Culture qui a refusé de venir au Festival de Cannes soutenir le film et que effectivement c'est politiquement ça a été extrêmement difficile. Ensuite la nomination aux Oscars, le fait que vous savez chaque pays nomme un film pour qu'il aille représenter le pays, ça a été une lutte de tous les instants du producteur et d'Andrei pour arriver à faire passer ça, parce qu'il y a toute une partie des gens qui étaient contre, et notamment encore une fois le ministère de la Culture. Ils ont réussi quand même à faire voter l'ensemble du collège pour que ce soit ce film-là qui aille représenter le film aux Oscars. Mais tout ça est une lutte effectivement de longue haleine.
Et le film est aussi, pour l'anecdote, à l'origine d'une loi, si j'avais bien suivi, puisque comme on ne pouvait pas trop reprocher au film de s'attaquer à la corruption politique, à la collusion, aux mafias qui ont intégré tous les niveaux de l'État et même de l'Église, on lui reprochait d'être vulgaire, d'employer un langage, le mat, avec des mots assez grossiers qui étaient déjà interdits à l'époque soviétique. Et maintenant, c'est interdit totalement de prononcer ces mots-là au théâtre, à la télévision et au cinéma. Joël Chaperon.
C'est pas uniquement dû à Léviathan. C'est effectivement une décision. La Russie aujourd'hui essaye de se reconstruire un roman national et essaye aussi de rendre le pays le plus pur possible. On est quand même dans une dynamique un peu compliquée aujourd'hui. Et cette loi n'était pas spécifiquement liée à Léviathan. Il y a d'autres films qui en ont encore plus subi. Toujours est-il que dans Léviathan, il y a cette langue entre guillemets que moi j'ai toujours appelée parallèle, qui est une langue extrêmement vulgaire, qui est absente des dictionnaires. La force de ces mots-là est d'autant décuplée qu'elle est absente de tous les dictionnaires. Nos gros mots en français, comme on le dit, sont dans le Larousse et dans le Robert. Chez eux, non. Et cette absence-là était déjà, à l'époque du tsarisme, totalement punie et sanctionnée. Et sous le communisme aussi, on pouvait être arrêté dans la rue par un flic qui pouvait vous emmener au poste parce que vous aviez dit un gros mot dans la rue. Et c'est en train de revenir. Toujours est-il que Léviathan, par exemple, comme tous ces films-là, la Russie est le seul pays où on ne peut pas voir ce film dans son intégralité. Andrei Zvyagintsev a été obligé de repasser derrière la table de mixage pour enlever ces gros mots, soit mettre un bip à la place qui fait rire les gens, soit le personnage ouvre la bouche mais il ne se passe rien puisqu'il a été obligé d'enlever le gros mot en question. La Russie est le seul pays au monde où on ne peut pas voir le film dans son intégralité, de même que la quasi-totalité aujourd'hui des films russes, avec certains metteurs en scène qui vont même jusqu'à tourner la même scène sans les gros mots de manière à pouvoir sortir en Russie alors que le film à l'étranger peut être vu dans sa version intégrale.
On se retrouve presque dans l'idéal de la relation du spectateur au film de Zvyagintsev, puisque évidemment le spectateur russe sait très bien ce que veut dire un personnage quand il ouvre la bouche et comble lui-même les blancs. Alors c'est sans doute un des films où le paysage a un des rôles les plus imposants. On se souvient de ses ouvertures avec ses vagues qui balayent les rochers. Il y a une dimension presque tellurique dans le film, et le paysage là encore c'est le grand thème de Zvyagintsev, mais c'est le paysage dévorant, c'est le paysage avalant, c'est le paysage qui va faire disparaître littéralement les personnages, Janice Vankin.
Oui, tout à fait. Je me permets aussi de rebondir sur ce que disait Joël, parce que je trouve que c'est important. Je pense qu'effectivement, le Léviathan aussi tombe à un moment, il y a aussi, on sent quand même depuis quelques années le revirement de l'État russe. Il faut savoir qu'en Russie, encore aujourd'hui, une majorité de films russes sont financés partiellement par l'État. Donc c'est une situation très différente de la France, donc on a du mal à aussi mesurer ça. Et que dans les années 2000 et jusqu'au début des années 2010, l'État considère que c'est son travail aussi de financer, y compris justement les films d'art et essai qui vont aller dans les festivals. Par exemple, à un moment, le Fonds de Kino, qui est une institution qui donne de l'argent, avait mis dans ses firmes majoritaires une société qui produisait surtout de l'art et essai, Cocktail. Et puis à un moment, voilà, il y a ce revirement qui effectivement nous ramène malheureusement à l'époque de la stagnation, où tout d'un coup on entend un discours totalement différent, c'était ce discours de comme ça d'épuration du langage, en disant il faut que le cinéma soit éducatif, didactique, etc. Et on entend aussi cette idée que puisque c'est nous qui finançons, il faut que ce soit un cinéma qui nous plaise, donc au fond un cinéma sous les ordres d'eux. Et ça c'est vraiment le revirement du milieu des années 2010, et c'est vrai que le Léviathan va en faire les frais, et d'ailleurs Faute d'amour sera un film qui sera financé à 0% par l'État, alors que tous les films précédents l'étaient quand même assez fortement. Alors maintenant sur le paysage, j'oublie pas, C'est vrai, c'est, je pense, quelque chose qui traverse vraiment le cinéma de Zvegintsev. Si on pense au tout premier plan de l'œuvre de Zvegintsev, de Le Retour, enfin du premier long métrage, c'est le plan de l'eau.
En cette plongée.
Fameuse, voilà, en plongée, voilà, cette fameuse eau qui va avaler dans le courant du film le père. Et c'est une figure, cette figure du paysage qui avale les personnages, qui les domine et qui va jusqu'à les avaler. Elle va revenir tout le temps dans les films. Et évidemment, dans Léviathan, il y a cette séquence absolument incroyable où la femme du personnage principal de Colia va regarder la mer, où il y a justement la seule fois où on voit apparaître cette baleine, hein, cette fameuse, une des figures du Léviathan du film, parce qu'il y en a beaucoup évidemment. Et on la voit regarder le paysage, il se passe quelque chose de terrible en elle, et on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas on ne la reverra plus que sous forme de cadavre, c'est-à-dire que cet avalement il est là. Et évidemment on le retrouvera dans Faute d'amour, avec ce petit garçon qui va être littéralement avalé lui aussi par le paysage, puisqu'on ne saura jamais ce qu'il est exactement devenu.
Trop de bruit.
Как это? Моя Леша открутила тут родинку. Родинка накрутила.
Нюн. Вы уверены?
Нет, нет, это не он. Нет, руки, пальцы, волосы, все. Нет, это не он. Пожалуйста, уберите. Пожалуйста, уберите.
Хорошее ему надо бы сделать сравнительный анализ ДНК, чтобы точно понимать, что это.
Это не он, что-то понимать.
Знаете, иногда люди просто отказываются верить.
Это не он, сколько вам повторять.
Послушайте меня. Этот анализ можете сделать только вы. Менты дело пока так и не открыли, замотают как-то.
Господи, да вы что, издеваетесь? Вы не слышите? Это не он. Сколько повторять можно? Я вам русским языком говорю, это не он.
Жень.
Это не он! Да что ты молчишь? Да что ты молчишь? Что ты молчишь?
Жень.
Я никогда бы его не отдала, ты слышишь, скотина? Никому
Жень,
бы его не отдала. Ни за что на свете, господи. Никому бы не отдала.
Возьмите.
А вот...
Voilà une scène terrible de faute d'amour, deux parents à la morgue qui doivent reconnaître un enfant mort. Est-ce que c'est le leur? Est-ce que ce n'est pas le leur? Il est un peu tard pour pleurer. Hein. Le début du film, c'est Boris et Genia qui se battent, qui se séparent et qui se battent pour ne pas garder leur enfant jusqu'à ce que ce dernier disparaisse, avalé, là encore sans doute par le paysage. Jenny Zwankin, faute d'amour, prix du jury à Cannes en 2017 et donc César du meilleur film étranger. La semaine dernière, très grand succès en France, hein, 230 000 entrées, ce qui est quand même considérable. Le film est d'ailleurs ressorti mercredi à Paris seulement, malheureusement. Pour l'instant, on a parlé du scénario, hein, de Lagnekin, on n'a pas encore vraiment parlé des images de Zvegintsev, les images signées là encore toujours par le même collaborateur, Mikhail Kritschman, avec cette façon de partager l'image, le cadre entre l'ombre et la lumière, une très forte picturalité. Il est très influencé par Edward Hopper, il va le dire, il le cite parfois directement. Il y a des citations picturales régulièrement chez lui. Comment est-ce qu'il envisage l'image, Jenny Zvankin, Zvegintsev, au-delà de sa beauté?
Oui, alors je pense qu'il y a, c'est difficile, on va pas épuiser la question en deux minutes évidemment, mais peut-être dans les choses qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'il y a une volonté de garder toujours une distance chez Kritschmann et du coup chez Zvaginsev aussi, mais une distance qui est une distance extrêmement attentive. Et je pense que là, on rejoint ce que disait Joël tout à l'heure sur le scénario, sur le travail de l'ellipse. C'est-à-dire que finalement, même quand on n'ellipse pas, quand on regarde, justement, on ne s'approche jamais de trop près. On regarde les choses se dérouler et c'est souvent d'ailleurs du coup des plans qui permettent de voir plusieurs personnages à la fois et de les voir interagir.
Du plan large, on est ravis dans notre émission.
Ben oui, effectivement, tout à fait. On les voit évoluer, on voit le rapport entre les personnages et avec l'espace qu'ils traversent. Donc ça, c'est, je pense, déjà une chose qu'il faut absolument dire. Et puis l'autre qui me semble très importante, c'est le rapport justement aux espaces. J'ai cru lire, donc je ne sais pas Joël, tu confirmeras si c'est vrai ou pas, qu'à un moment, Zvaginsev avait hésité à appeler Elena à l'invasion des barbares. Voilà.
Denis Arcand avait frappé le premier.
Voilà. En tout cas, cette idée de... Parce que pourquoi l'invasion des barbares? Parce que la fin du film, évidemment, avec cette famille qui vient de la zone un peu sinistrée des banlieues de Moscou, qui vient débarquer dans cet appartement luxueux, bah, c'est cette invasion des barbares, justement, dans un nouveau lieu. Donc, il y a cette idée, comme ça, des lieux qui se vident, qui vont être repeuplés par d'autres gens, et ces lieux qui gardent, du coup, ou pas, une trace du passage, du temps passé. Le Léviathan, c'est aussi quand même un homme qui tente de sauvegarder la maison de son grand-père, et qui va y échouer. Et je trouve qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre-là dans Faute d'amour, où on voit des lieux comme ça. Il y a une séquence très étonnante où on cherche l'enfant et on va rentrer dans une espèce de grand bâtiment complètement déserté. Et pendant très très longtemps, on verra le père qui erre dans ce lieu. On se dit tout le temps que ça va aboutir d'un point de vue narratif, et en fait, il ne se passe rien. Donc clairement, il se passe autre chose. Et ce qui se passe, c'est ce que nous raconte cette image. C'est justement, voilà, ces lieux un peu désertés, qui sont des traces du passé qu'on a du mal à saisir. Et là, on rejoint, je pense, aussi cette question de la génération contemporaine russe, parce que c'est en fait quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre de films contemporains, cette idée qu'on vit sur des ruines et qu'on a parfois du mal à établir une vraie relation avec elles ou à comprendre ceux qui sont passés par là avant nous.
Joël Chaperon, vous confirmez ?
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est aussi lié, notamment cette fameuse scène que vient de citer Eugénie dans ce bâtiment délabré, et d'un côté, et de l'autre, la réappropriation par les barbares de cet appartement. On revient quasiment sur les appartements communautaires soviétiques qui étaient peuplés de bourgeois et d'aristocrates du tsarisme, et in fine qui sont peuplés par des familles entières, souvent illettrées, et qui n'en prennent pas beaucoup soin au tout début des années 20 et durant les années 30. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré aussi, encore une fois, dans l'histoire de la Russie. Et pour revenir sur l'image, il y a une chose à laquelle il faut vraiment prêter attention, c'est que on sait qu'Andrei Zvaginsev n'a fait aucune école de cinéma. Son école de cinéma, c'est d'avoir vu les films des autres. Il a, lui, une formation d'acteur seulement, mais il a vu les films des autres, et c'est vraiment ça qui lui a donné le goût. Alors on peut être cinéaste sans avoir fait d'école, c'est plus compliqué d'être chef opérateur sans avoir fait d'école, et pourtant c'est le cas de Mikhail Kritschmann, qui n'a fait aucune école de cinéma et qui a appris son métier en lisant The Cinematographer, qui est une revue professionnelle, et c'est comme ça qu'il a appris aussi, en regardant les films des autres. Et le fait qu'il soit comme ça, deux petits canards boiteux entre guillemets dans le cinéma russe, les a aussi confronté à une situation politique compliquée, parce que c'est eux qui sont évidemment récompensés. Il a eu en Italie, Mikhail Kritschmann, un prix pour la meilleure image pour un des films précédents d'André. Mais c'est eux qui sont récompensés, eux qui justement ne viennent pas du moule de la formation de l'école russe.
Merci, Janice Van Kyn et Joël Chaperon. On se quitte sur ce chant des paysannes qu'on entend à la fin du film, le bannissement. Et puis là, c'est le générique de fin, l'intégrale Andrei Zvaginsev en 5 films à ce jour. C'est en coffret DVD et en Blu-ray chez Pyramide Vidéo. On peut aussi trouver son dernier film, Faute d'amour, en édition individuelle. Le livre collectif que vous avez dirigé, Janice Van Kyn, Cinéma russe contemporain, Révolution ou Évolution, le R étant entre parenthèses, est édité chez Septentrion, avec notamment notamment une étude comparative du cinéma de Zviagintsev et de celui de Tarkovsky, et puis une étude très fouillée de l'exploitation cinématographique en Russie d'avant-hier à aujourd'hui, signée Joël Chaperon. On lira aussi avec profit de Masha Ochinikova la révélation du temps par les figures sonores dans les films d'Andrei Tarkovsky et Andrei Zviagintsev aux éditions Leitmotiv. Et puisqu'on parle de lui, on signale aussi l'édition DVD Blu-ray des magnifiques copies restaurées de l'intégrale des films d'Andrei Tarkovsky. Ça, c'est chez Potemkin. Si au cinéma russe vous préférez l'italien, c'est mercredi prochain que commence le festival Terra di Cinema à Tremblay en France. C'est jusqu'au 25 mars. Et puis pour les germanophiles, quatrième édition de Kinoscope, le festival de cinéma allemand de Dijon. Ce sera du 12 au 16 mars. Il est temps, dans Plan Large sur France Culture, d'écouter un peu ce que le cinéma a à nous faire entendre.
Tu m'aimes, Guillaume ?
Oui, bien sûr, je t'aime.
Parce que moi, j'ai bien réfléchi, je ne t'aime plus.
Allez, qu'est-ce qui se passe, Véronique ?
J'aime plus ton visage, j'aime plus tes yeux, j'aime plus ta bouche. J'aime plus la couleur de tes chandails, puis tu m'ennuies, tu peux pas savoir.
Mais Véronique, qu'est-ce qui se passe ?
Je ne t'aime plus.
Mais je comprends pas.
Tu vas comprendre.
Véronique !
Tu vas comprendre.
Véronique, explique-moi, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu me dis ça ?
Je ne t'aime plus, Guillaume. Tu m'empêches de travailler. Tu m'angoisses. L'amour avec toi, c'est beaucoup trop compliqué. Puis je déteste la façon dont tu parles des choses sans même les connaître. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Bon, t'as compris maintenant ?
Ouais, j'ai compris. Je suis vachement triste. Je t'en prie.
Bah tu vois, Guillaume, qu'on peut très bien faire deux choses à la fois. Et pour que tu comprennes, il fallait les faire. Musique et langage.
Faute d'amour, là encore. Hein. Musique et langage, dit Véronique Anne-Wiesemski à Guillaume Jean-Pierre Léo dans La Chinoise de Godard. Musique et langage, on pourrait dire aussi son et image. Hein. Ça fait 90 ans que le cinéma allie les deux est devenu un art audiovisuel, mais sans doute parce que pendant les 30 premières années de son existence, il s'en était fort bien passé. Le son, les bruits, la musique sont en général asservis à l'image. Hein. C'est un fond à entendre, mais surtout pas à écouter. Et pourtant, il y a des films qui accordent une attention égale à l'écoute et au regard et qui tirent profit de l'attention des images et des sons. Ce sont quelques-uns de ces films qu'a réuni dans un livre l'ancien professeur à l'IDEC et à la fac de Vincennes aussi, psychanalyste et monteur son, Aimé Agnel, sur quelques films vraiment sonores aux éditions de L'Œil, un livre que vous avez bien évidemment lu les yeux fermés, Mathieu Macheret.
Oui, c'est mon pouvoir secret, j'arrive à faire ça. Oui, Antoine, le livre d'Aimé Agnel, qui est un beau livre, réactive une idée qui était celle assez chère à la critique des années 70, hein, qu'on pouvait lire à l'époque, avec des auteurs comme Michel Chion, Claude Beyblet ou Pascal Bonitzer. Un peu perdu de vue depuis, celle qu'il existe une écoute des films, hein, une écoute active qui ne supplante pas le regard, mais au contraire l'augmente. Car bah oui, le cinéma, bon, en effet, fait trop prévaloir l'image, alors que le son est un univers réuni comme ça, toute une partie d'imaginaire qui est aussi extrêmement riche. Et on a trop l'habitude de se reposer sur la synchronicité de rigueur qui est celle de la fiction majoritaire, alors qu'on peut inventer, pourquoi pas, des rapports, des retards, des sautes, des discordances, des harmoniques même, avec le son qui est aussi une dimension de création. Il faut pas oublier que le son est un cadre, hein, qui peut ou pas rencontrer celui de l'image, mais aussi que le micro n'est pas obligé de pointer dans la même direction que la caméra. Et ça, c'est ce que nous rappelle très bien Aimé Agnel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une écoute des films selon l'auteur ? une écoute, c'est ne pas oublier l'image, mais c'est placer son attention sur deux fronts, hein. Donc voilà, essayer de multiplier cette attention sur deux plans pour justement enrichir le contact avec le film. Et c'est une approche qui souligne, comme le rappelle Aimé Agnel, évidemment la dualité, hein, qui est celle de la machine cinématographique. C'est une machine où il n'y a que de la discontinuité. La plupart des films essayent de la résorber, et certains films, une famille de films, ceux qu'il appelle les films vraiment sonores, l'assument, hein, et donc cette grande fissure entre image et son, une fois qu'on en a pris conscience, peut devenir vraiment une grande source de création. Alors la beauté du livre, c'est son caractère empirique. Il n'y a pas de grande théorie sur le son au cinéma, mais Agnel voyage parmi des films aimés, sans esprit de système, et il prélève des scènes particulières, comme ça, qui décrit précisément, et même amoureusement, pour saisir au vol, comme ça, des configurations sonores surprenantes et des émotions qui l'ont accroché à tel ou tel film. Donc, le livre se visite comme une petite collection, voire une sorte de vade-mecum, hein, c'est des instants de cinéma, des instants qui invitent l'oreille à se dresser, lui donnent une sorte d'indépendance, et bien sûr, ces films qu'on écoute forment, voilà, un groupe informel, une autre histoire du cinéma qu'Aimé Agnel revisite librement, même en ce qui concerne d'ailleurs la période du muet, c'est un chapitre assez surprenant. Il reconnaît dans le muet un véritable vacarme, hein, des films saturés de signes sonores et déjà, oui, du son, hein, en quelque sorte, mais du son qui passe par l'œil. Et puis, Aimé Agnel convoque comme ça une très belle galerie de cinéastes. Il parle de John Ford, de Jean-Luc Godard, on l'a entendu, de Murnau, d'Ingmar Bergman, il passe par Robert Bresson, évidemment, mais il n'oublie pas des œuvres plus secrètes, comme celle de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, par exemple, ou encore celle d'un grand maître, le portugais Manuel de Oliveira.
O seminarista Nelson casou com uma herdeira cuja sensualidade está no que se omite. Constou que a noiva quase o violou, antes e depois de casar, e que morreu cedo, deixando-o a uma amiga como quem deixa um colar de pérolas. Na primavera, Emma estava noiva. Carlos sentiu-se de certa maneira embrutecido de felicidade. Adiou duas vezes o casamento como para provar que resistia a essa mulher que amava. O que ele temia era a resoluta presença de Emma, que se distinguia tão bem da submissão fútil em que se criara.
Olha além, o rio está diferente.
Emma pensou que, porventura, no fundo, havia ainda desses peixes gigantes que raramente assomavam das profundidades a cabeça brilhante.
Assim não se pode provar o vestido. Anda a ver, mudou.
Não, menina, é o Rio Douro que sempre esteve ali.
É um homem.
Um homem?
Sim, é esta distância. Um homem faria o efeito de um alfinete.
Está realmente turvo o rio e nublado o dia. Não consigo ver bem, mas parece-me...
Um barco. Um barco à deriva.
Deve ser. Ah, já vejo. É o barco de passageiros que leva a gente para as termas.
Voilà, c'est un extrait magnifique du Val Abraham de Manuel de Oliveira. On perçoit évidemment tout de suite la richesse sonore. La voix est une musique, la musique est une voix. La voix off dialogue avec le récitatif des acteurs, se mélange avec la complainte élégiaque du piano qui crée une profondeur d'écoute sidérante comme une véritable composition. Ça nous rappelle à quel point le cinéma est aussi là pour nous faire entendre la musique des langues étrangères, hein. C'est ça aussi le cinéma. En tout cas, aussi, là, à quel point le portugais est une langue magnifique. Aimé Agnel reconnaît que le texte du film est une sorte de musique dont la langue est chantante, l'écriture poétique. Elle nous détache de l'image et on voit mieux alors, comme d'un peu plus loin, avec cette autre profondeur que le texte lui donne. Alors, il y a des très belles pages sur le cinéma des années 30 qui invente les rapports du parlant, enfin, entre image et son. Des très belles pages sur le silence, hein, par rapport au bruit. Le silence qui est une figure sonore comme les autres, et puis des très belles pages aussi sur Fellini et sur la post-synchronisation, c'est-à-dire la recréation du film par le son, qui est encore une autre dimension du cinéma à ne pas oublier, souvent dénigrée, mais qui voilà, augmente cet imaginaire sonore.
Merci Mathieu Macheret, et on entend ici le Clair de Lune de Claude Debussy, toujours dans le Val Abraham de Manuel de Oliveira, sur quelques films vraiment sonores d'Aimé Haniel et publié aux éditions de L'Œil. L'auteur rencontrera d'ailleurs ses lecteurs et signera son livre mardi prochain à 18h30 à la librairie du cinéma du Panthéon à Paris. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Anthony Thomasson. L'émission était préparée comme toujours par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, Plan large sera en direct et en public du salon Livre Paris. Nous vous y attendons très nombreux parce qu'il y aura des cow-boys et des indiens. Nous recevrons le romancier et scénariste Louis-Stéphane Ulysse qui signe chez GM Éditions une histoire du western en 2 volumes agrémentés, ce n'est pas rien, de 12 DVD de classiques du genre édités par Carlotta Film. Nous serons aussi avec l'historien du cinéma Pierre Berthomieux, auteur du Temps de la folie, le livre qui accompagne l'édition en version restaurée ultra collector de Duel au soleil de King Vidor, la dernière folie du producteur David O. Selznick. Vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Irène Omelianenko. Thank you.